chronique citoyenne avec Sébastien Saint-François.
Sébastien Saint-François, bonjour.
Salut.
Alors,
écoute-moi là, je prépare mes chroniques le mardi, hein, je fais un bel effort pour dire que je vais être d'actualité. Okay. Puis c'est impossible de
se tenir. Je dirais que, c'est pas une critique, c'est une observation, que depuis facilement un mois, là, t'es toujours.
Ben, je veux dire, oui, je parle quand même d'actualité, mais c'est ça. Il y a toujours des surprises, hein.
Alors que l'an dernier, bon, le mardi.
On était assez sûrs.
Là, rien ne va plus.
Une chance, je suis versatile, comme on dit. Je peux m'ajuster.
Aïe, quelle affaire. Puis tout ça annoncé par les réseaux sociaux.
Comme si rien n'était.
Social, puis X, puis.
Comme si c'était un fait divers.
Oui.
Hein. Écoute, j'ai entendu depuis hier après-midi, notre cher M. Trump, il a décidé de donner un sourcil à la planète sur ses tarifs qu'il appelait réciproques, là, qui ont été calculés par un enfant de première année, de ce qu'on a su. Ça devait entrer en vigueur aujourd'hui. Et imagine le chaos. Alors, il en a remis du chaos hier, mais dans le sens positif. Il a dit, OK, je vais vous donner un break de 90 jours.
Oui.
Il disait, je chantais que les gens, ça allait pas bien. Il a dû utiliser le mot queasy. Queasy, c'est comme, t'as le ventre à l'envers, t'as envie de vomir, là, tu sais.
Oui.
Fait qu'il a dit, mais la Chine, ça, je maintiens la ligne dure sur la Chine. Fait que là, on se retrouve dans une situation où.
Puis nous autres, ça, de toute façon, on faisait pas partie de ces tarifs.
Nous, on est dans une autre catégorie. Oui. Nous et le Mexique, donc ça change rien pour nous jusqu'à nouvel ordre. Mais ça change, pour des plus petits pays. Mais le gros morceau, c'est sûr, c'est la Chine. Hein. Là, on est rendu une vraie guerre tarifaire entre les deux pays. Là, on parle de 125 là, tarifs, puis 84, puis c'est pas fini, peut-être.
Vont-tu aller dans le 500
Je sais pas jusqu'où plus ça peut aller. Hein. Si tu regardes la caricature de Chapleau ce matin, c'est Donald Trump et le président chinois qui font pipi, puis c'est qui va pisser le plus loin.
Ouais.
Chose certaine, puis j'ai écouté plusieurs analystes hier soir dans les bulletins, puis à la télé américaine. Ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment les marchés obligataires qui ont fait leur œuvre, hein, parce que moi, je suis pas un économiste, là, mais je lisais là-dessus justement ce matin. Puis les obligations, ça marche différemment que les marchés boursiers, dans le sens que on dit que plus une obligation est recherchée, plus son taux est bas. Et plus il y a un risque, donc il est moins recherché, plus le taux est haut. Et c'est avec ça que le gouvernement américain finance sa dette. Hein.
Ouais,
rappelons-nous que les États-Unis, la dette fédérale aux États-Unis est quelque part entre 36 et 37 trillions de dollars. Un trillion, c'est 1 000 milliards. Donc, on a pour 36 000 à 37 000 milliards de dettes aux États-Unis juste au niveau fédéral. Donc, ce qu'on semble dire, c'est qu'il y a eu des ventes massives de bons du Trésor américain dans les derniers jours, notamment par les Chinois, les Japonais. Rappelons-nous, hein, les créanciers internationaux des États-Unis, un des principaux, c'est la Chine, c'est le Japon. Donc, en vendant massivement des obligations, qu'est-ce que ça fait? Ça fait augmenter le taux obligataire parce que la dette devient plus risquée. Le signal qui est envoyé, c'est qu'on n'en veut pas de dette américaine. Et ça fait quoi, ça? Ça fait que le service de la dette aux États-Unis monte en flèche. Et déjà, sont pris à la gorge, là, les États-Unis, juste en service de la dette, là, financer une dette de 36 milliards.
Il y a un petit message envoyé.
Il y a un message qui a été envoyé. Donc, ce que ça nous démontre, heureusement, c'est que oui, puis on l'avait dit, puis on va le redire, les marchés, dans la situation chaotique, inédite qu'on vit depuis quelques mois maintenant, les marchés sont vraiment le dernier rempart contre une débâcle totale. Et apparemment, je peine à croire ça, mais j'ai entendu ça, je crois que c'est à CNN hier, que même le secrétaire au commerce, Howard Lodnick, son grand cerveau là, des tarifs là, avec Navarro, il était même pas au courant de l'annonce. Il l'a appris comme tout le monde. Imagine.
Ben, ça va être ça, ce
Ouais,
ce
mais ça va aller jusqu'où? Un moment donné, ça va finir par briser. À Maison-Blanche, il y a quelqu'un qui va le sortir de là. Ça se peut pas, là.
Ouais.
Ça ne se peut pas. Tu peux pas gouverner un pays pendant 4 ans comme ça. Ça va être tout le monde, la planète au complet va être en état de burn-out total. Là. En tout cas, c'est à suivre. Pour avoir une autre annonce aujourd'hui, on sait pas.
Politique fiction, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ils vont débarquer dans son bureau, ils vont dire « rien ne va plus, Donald ». On va dire que pour des raisons de santé, tu t'éclipses, tout simplement.
Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver. Hein? Ça serait pas mal inédit dans l'histoire du moins moderne.
Viens t'asseoir, on va
t'expliquer comment ça marche. C'est JD qui prend la place. Là. C'est automatiquement,
ouais,
c'est lui, c'est JD.
Le parti va dire quoi faire à JD, ça va de même.
Ouais,
ça
mais
va
le...
de même. Les élections de mi-mandat vont déterminer bien des choses.
C'est parce qu'en ce moment, le parti, c'est le parti de Trump. Il l'a pris en otage. Donc, qu'est-ce qui va arriver après les mi-mandats? Ouais. Ça, c'est une autre affaire.
Il y a des mi-mandats aussi. Il est capable, ce diable d'homme, de déjouer ses
affaires. Il y en a qui disent qu'ils vont peut-être manigancer puis créer une situation faisant en sorte qu'on ne peut pas tenir de mi-mandat, de circonstances de sécurité nationale.
Il va être en train de fouiller ce qu'il peut faire, la passe-passe qu'il peut faire pour.
Il y a la santé aussi. Hein, on le voit, mais j'ai pas vu la photo, mais j'ai entendu parler d'une photo prise parce qu'il y a eu un grand tournoi de golf en fin de semaine, puis il a été champion. Mais il y a une photo qui a été prise de lui apparemment.
Comme compétition.
Oui, bien, ça a l'air qu'il a gagné, il était bon. Mais je suis pas ça, là, mais ça a l'air qu'il avait l'air pas mal fatigué, il faisait son âge. Fait que, tu sais, il y a le facteur âge aussi, là. Il a de l'air un gros bully qui a plein d'énergie. À un moment donné, ça va le rattraper, là, à force de faire le matamor, tu sais.
Ouais.
Il va avoir 79 ans bientôt, là, sa fête, je me souviens pas c'est quand, là. C'est au mois de juin, oui, parce qu'il veut en faire une fête nationale, le 14 juin.
Oui, avec un défilé.
Une parade militaire, puis il veut que ça devienne un jour férié aux États-Unis.
Ça sent quasiment pas le dictateur, hein.
Tu sais, le jour des présidents, c'est pas assez pour lui, ça va être le Donald J. Trump Day.
Donald Day.
The biggest day of the year. The best day. Ouais. En tout cas, c'est à suivre, mais écoute, chaque jour est un sac de surprises avec lui. Moi, je suis content.
Un sac.
Un truc. Je suis content parce qu'au moins, les bourses ont rebondi de façon instantanée. Puis on peut se demander s'il n'y a pas eu délit d'initié là-dedans.
Aussi.
Parce qu'il est allé écrire sur True Social, son réseau social, en amont de l'annonce. Ah, c'est une excellente journée pour acheter. Ouais. Est-ce que ses amis milliardaires ont fait des...
plus vulgaire que ça. Ouais.
Est-ce que ses amis milliardaires étaient dans le coup? Ben ça, c'est la vraie question. Ouais. Est-ce qu'ils étaient au courant avant? Et est-ce qu'ils ont
alors,
fait
si
des
on
tonnes
en parle,
d'argent?
Nous autres, dans une petite radio à Longueuil, ouais. Il doit y avoir une couple de journalistes qui sont là-dessus.
Oui, puis au Congrès, ça doit jaser aussi.
Oui, alors donc, à suivre.
Absolument.
Est-ce aussi arrangé que la lutte professionnelle du côté de nos voisins?
On peut se demander. Si c'est pas Hulk Hogan caché dans la Maison-Blanche quelque part qui joue tout ça.
Aïe, aïe,
c'est piton.
Aïe. Hôpital Maisonneuve Rosemont,
oui.
Revenons sur le plancher des vaches.
Hey,
la pression s'accentue.
Ben oui, la pression s'accentue de la part des citoyens, de la part de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal.
Écoute,
ça n'a pas de sens. Là.
Ça tient que la broche.
Ça tient littéralement que la broche. Là. Tu vois des pans de murs à l'extérieur qui sont grillagés. Ça fait peur.
Hey, puis cet hôpital-là
est important.
Est important.
Absolument.
Des chercheurs de pointe, des médecins extraordinaires.
Et c'est pas juste.
Là.
C'est ça, puis ça descend pas juste l'Est de Montréal. Moi, mon père avait des problèmes avec les yeux. Il a perdu un œil en quarantaine, faisait du glaucome depuis la naissance. Puis je me souviens, c'était à Rosemont-Maisonneuve qui était opéré, puis qui était suivi. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Maisonneuve-Rosemont
tout à
de partout.
Fait. Tout à
parce
fait.
Qu'il y a des spécialisations très avancées.
C'est un centre d'une grande importance.
Absolument. Puis on laisse ça aller.
Oui.
Puis Dubé, il avait annoncé ça. Là. Il disait initialement c'était pour l'automne 2024. Là, on avait repoussé ça à la mi-2025 pour le début des travaux. Là, on est rendu en 2026. Dubé qui avait dit, moi, je veux que ça soit terminé avant la fin de mon mandat. On sait que fort probablement, il ne se représentera pas, Christian Dubé, là, à l'âge qu'il a. Je pense qu'il va prendre sa retraite. Mais non, on ne peut pas... Puis la journée, comme plusieurs chroniqueurs soulèvent, la journée qu'on est obligé de fermer ça pour des raisons de sécurité, là, d'urgence, là, on dit, là, c'est... Tu sais, on a vu, là, je pense que c'est Foirier à TVA qui a fait un reportage, l'eau qui coule, des écureuils là-dedans, toutes sortes de maudites affaires, ça n'a pas de bon sens. Alors là, il y a à la fois les candidats à la mairie de Montréal aussi qui se prononcent, mais là, on va falloir, au lieu de se prononcer, passer à l'action, parce que ça devient urgent, là. On ne bâtit pas un hôpital en 6 mois, là.
Je comprends qu'on a de la difficulté
là,
à trouver...
Il invoque les motifs budgétaires, mais trouvez-en de l'argent. Là, au lieu d'en donner à Nordvolt, puis gaspiller des centaines de millions
puis,
dans des affaires
d'être
de
content
même,
dans une affaire hasardeuse comme ça, je comprends que ça rapporte
parce que,
pas. On ne fait pas rentrer d'argent,
mais on soigne du monde qui ont payé de l'impôt de leur sainte vie. Puis, tu sais, rappelons-nous, le CHUM, combien ça a pris de temps à réaliser. Puis aujourd'hui, le CHUM est reconnu comme un excellent hôpital, puis c'est formidable.
Vasugueux, te souviens-tu? Il y avait trouvé un terrain. D'abord, ça aurait dû être là au départ, Rosemont. Là, non, c'est plus possible.
Non, ça a niaisé longtemps.
Les libéraux avaient des intérêts peut-être à côté de l'Université de Montréal. Puis là, à côté de. Puis là, ça.
Mais là, il y a le temps de sortir.
Alors que.
Là, il y a le temps de sortir.
N'importe quel endroit, ça aurait été un bon endroit.
Ça prend un hôpital. Puis ça prend, trouvez-le l'argent, là, parce que vous êtes capable de nous endetter pour bien moins que ça. Mais je pense que là, puis je pense que les citoyens aussi en ont assez. Tout le monde en a assez. Le président de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, il est sorti aussi. Puis c'est pas juste une question. Il y a des répercussions économiques, de santé. Il y a plein de, tu sais, c'est très important.
Oui, tout à fait.
Il faut se déniaiser, comme on dit.
Saguenay. Les libéraux qui s'infiltrent, Richard Martel, et puis c'est M. Saint-Hilaire, je pense, du Bloc québécois, qui est directeur général du Quotidien, donc un candidat vedette. Ouais. C'était une lutte à deux, puis là, il y a un libéral qui s'infiltre là-dedans.
C'est une image du phénomène qu'on est en train de vivre, là, le phénomène Carney, comme tu disais dans ta revue de presse. Là, on peut lire dans la presse ce matin que 62% des électeurs considèrent que Carney est l'homme de la situation pour aller contre Trump. Moi, personnellement, je lui fais pas plus confiance que de n'importe qui d'autre, parce qu'il n'y a personne qui peut aller contre Trump. Là, il est tellement irrationnel, mais bon. Mais en effet, au Saguenay, donc c'est Richard Martel, hein, qui est un personnage connu du hockey antérieurement.
Il faut qu'il paye le prix.
Non, je ne suivais pas le hockey.
Patrick Roy, qui était à l'époque coach des Remparts, était en séries éliminatoires contre les Saguenayens qu'il dirigeait. Mm-hmm. Et à un moment donné, Richard Martel, il disait, il faut qu'il paye le prix. Puis Patrick Roy l'imitait et il s'est resté.
Tu vois, je suis pas un gros fan de hockey, puis ça paraît. Toujours est-il, donc, ça a l'air que le libéral, qui est un monsieur, un actuaire de 57 ans, Stéphane Proulx, qui est arrivé à la circonscription avec 653 $ dans les coffres.
Oui.
Alors, ça a l'air que, sauf M. Martel, il serait à 31... Il est à 31%, le conservateur Martel à 37%.
Ah, le bloc est à 26%. Tu regardais ça aujourd'hui, toi?
Non.
Dans Québec, en fin de semaine, c'était ça, mais...
Là, j'ai pas regardé plus récemment.
Je disais ça en fin de semaine, c'est un petit coup de pouce. Ça pour le libéral, mine de rien.
Écoute, chez nous, Pierre Boucher, patriote, selon le site Québec 125, on est rendu pivot libéral bloc, alors qu'on a été bloc solide depuis 2015.
Je te l'annonce ici aussi.
Il y a eu un candidat qui a été parachuté, on le connaît pas.
Marie-Victorin, excuse-moi, Longueuil-Saint-Hubert.
Le candidat
ici,
libéral, on le connaît pas, mais ça a l'air qu'on est rendu pivot libéral BQ.
Tu sais qu'on devait avoir débat ici.
Oui.
Ça a floppé parce que c'est pas de notre faute.
Il y a eu des désistements.
Désistements la veille des libéraux. Les conservateurs,
M. Trudel s'est présenté, mais les autres.
La veille, les libéraux, et le matin même, les néo-démocrates. Donc, il est venu seul au début. On s'est dit, on le fait quand même.
Ben oui, il a pu s'exprimer, M. Trudel, pourquoi pas. Il a fait une entrevue. Puis, je trouve ça dommage pour les citoyens. Parce que, bon, tu sais, des candidats qui se désistent dans un exercice démocratique tel un débat.
Est-ce qu'on va parler de la vague Carney comme la vague orange?
En tout cas, moi, c'est sûr que j'ai bien hâte de voir les débats la semaine prochaine.
Le poteau qui est passé.
Je vais les écouter, les deux débats en anglais et en français la semaine prochaine. Mon idée n'est pas faite. Honnêtement, je ne sais pas pour qui je vais voter. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec l'idée d'un quatrième mandat libéral.
Pas de
rhinocéros
dans ton comté. On veut lui parler,
le
candidat, aujourd'hui.
Mais en tout cas, la tendance, ça va être très, très difficile à changer à ce stade-ci de la campagne, à moins de quelque chose de formidable pour Poilievre dans le débat, dans un des deux débats.
Ouais.
Mais je pense que M. Poilievre, là, il a manqué sa chance de devenir premier ministre. Ouais. Il doit réagir à l'intérieur.
Ouais. Tous ces rallyes dans l'ouest du pays avec 6 000
personnes. Oui, mais c'est parce que son vote est trop concentré au pays.
Les gens disaient, ah, c'est extraordinaire. Oui, mais c'est parce qu'il n'y avait pas. Puis
écoute, il a attiré une foule record. Là, il y a quelques jours, M. Harper était là. Mais c'est ça le problème, son vote est trop concentré au pays. Lui, il faut qu'il aille faire des gains dans la région du Grand Toronto.
Il n'y a pas d'amis dans ce coin-là.
C'est ça.
Puis ici aussi, ça pourrait être plus intéressant ici.
Mais moi, je pense, en tout cas, si M. Carney est élu avec les libéraux, puis un quatrième mandat, on risque de déchanter par la suite, parce que c'est pas vrai que ça va être un nouveau parti libéral.
À la semaine prochaine. Je suis pas là la semaine prochaine.
Non, t'es pas là, mais je vais être avec ton remplaçant. Salut.
C'est pas mon remplaçant.
Pas ton successeur, non.
Mon collègue.
Ton collègue, bon, voilà.
De bonheur le matin. Avec Charles Gaudreau.